tout ce développement vont vraiment aider les locaux dans le coin. Ouais. T'es prêt? Ok, on y va. 3, 2, 1, et on y va, on fait partie. Alors, l'homme dans cette vidéo est en train de surprendre sa femme, va surprendre sa famille parce qu'il rentre il rentre de son service militaire. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Est-ce que ça affecte tous les gens qui travaillent, tous les travailleurs normaux, ou ici les petites entreprises? Bienvenue sur ma chaîne et merci pour tous les commentaires sympas. Je suis un fan de technologie et je suis ici pour vous parler de tous les derniers développements de la technologie qui vont changer et transformer notre monde. Et n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à ma chaîne. Et voilà, on coupe. Bravo, t'es vraiment un naturel. T'es sûr que t'as jamais fait ça? Bonjour depuis New York, merci de vous joindre à nous. Nous sommes ravis de vous avoir à bord. Je m'appelle Kimberly Avalos et je suis productrice dans une start-up d'information appelée The News Movement, où je m'amuse beaucoup à présenter des vidéos explicatives sur l'actualité et à réaliser des reportages plus approfondis sur des sujets qui intéressent les jeunes et les communautés que nous couvrons. Avant cela, j'étais productrice à Now This News, où j'ai porté de nombreux chapeaux journalistiques différents pendant 5 ans. Mais j'ai particulièrement apprécié d'être sur le terrain pour produire et tourner des vidéos de style documentaire. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier et d'apprendre à connaître la vie de nombreuses communautés différentes. Il y a quelques années, j'ai même fait un reportage dans un camp de réfugiés au Kenya, ce qui m'a permis d'avoir un aperçu de première main du déplacement des populations. Une cause question complexe et traumatisante pour des millions de personnes. Et je suis heureuse que nous ayons pu raconter certaines de leurs histoires. Avant d'aborder l'atelier d'aujourd'hui, je voulais profiter de l'occasion pour vous parler un peu de notre chaîne et de certains de nos contenus. Alors, The News Movement, ou TNM en abrégé, c'est une nouvelle organisation d'info qui cherche à réimaginer l'information et à l'amener là où nous savons que les gens la consomment. Naturellement, ça signifie que nous privilégions la vidéo sur YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat et notre site web. On a 2 bureaux, un à Londres et un ici à New York, avec une équipe d'environ 36 personnes. Et à TNM, notre public est au centre de tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, nous puisons dans les conversations que les gens ont déjà, car ça nous aide à savoir quelles sont les informations qui intéressent notre public et comment nous devrions les couvrir. Et nous pouvons ensuite nous appuyer sur ces conversations et les développer. Deuxièmement, nous sommes également attentifs à la manière dont notre public s'engage dans le contenu que nous diffusons. Comment les gens réagissent-ils dans les commentaires? Quelles sont les histoires qu'ils aiment, qu'ils partagent? Et comment pouvons-nous commencer à établir des relations avec notre public? Notre approche de l'information passe également par ce que nous appelons la narration horizontale, où plutôt qu'un présentateur assis derrière un bureau qui vous dit ce qui est important ou une source d'information qui nous noie sous les gros titres, ce sont des amis qui racontent l'actualité à leurs amis. Le ton de nos vidéos est celui de la conversation et nous passons le micro chaque fois que possible en donnant aux gens l'occasion de raconter leurs propres histoires. Et enfin, une caractéristique unique de notre marque est de favoriser les voyages vers l'avant, vers le futur. Nos vidéos ne sont pas seulement des histoires uniques. Nous essayons d'indiquer des ressources où les spectateurs peuvent approfondir ou s'engager plus avant dans l'histoire que nous avons mise en lumière, s'ils le souhaitent. Nous continuons également à suivre l'évolution d'une histoire et à tenir notre public informé. Et en fait, je voulais vous montrer une vidéo que nous avons publiée chez TNM et qui nous illustre certains de ces éléments, ainsi que la manière dont nous l'avons conçue. Cette vidéo s'appelle « Qui est Mahsa Amini? » Pourquoi est-ce que ces femmes brûlent-elles leur hijab et se coupent les cheveux? En Iran, les gens sont révoltés contre la mort de Mahsa Amini, de 22 ans. Beaucoup de détails restent à confirmer sur ce qui s'est vraiment passé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été arrêtée par la police de la moralité parce qu'elle ne portait pas son voile correctement. Elle a été mise en garde à vue et est morte 3 jours plus tard. La police dit qu'elle s'est effondrée et est morte d'une crise cardiaque, alors que sa famille dit qu'elle était complètement en pleine santé et n'avait aucun problème de cœur. Les gens disent qu'ils ont vu des policiers la frapper dans le fourgon de la police. Il est allégué qu'elle a subi des coups à la tête. Les manifestations ont éclaté après ses funérailles. Beaucoup voient cette situation comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les femmes en Iran et la violence contre de la police de la moralité. Les Nations Unies ont annoncé qu'ils avaient reçu de nombreuses vidéos montrant la police de la moralité attaquant violemment les femmes qui ne suivent pas les règles du hijab. Elles ont demandé une enquête indépendante sur la mort d'Amini. On rapporte que 7 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. Alors, un petit retour en arrière sur notre processus. En septembre dernier, nous avons vu des conversations surgir sur les médias sociaux à propos des manifestations en Iran. Plus précisément, de nombreuses images de manifestations massives circulaient, des militants qui se coupaient les cheveux et brûlaient leur hijab. Donc, dans l'esprit d'alimenter la conversation, nous savions qu'il était important de fournir un contexte à ce que les gens voyaient sur leurs infos. Et nous savions que deux des principaux endroits où les gens cherchent des réponses sont YouTube et Google. Nous avons donc analysé ce qui se passait en Iran. Cette vidéo est notre short qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour. Il a actuellement 1,6 million de vues depuis sa publication fin septembre. Et c'est l'une de nos premières vidéos à avoir attiré l'attention dès le premier jour, où elle a généré 38 000 vues. Ce que nous pensons être la clé ici, c'est notre titre. Sur YouTube, nous voulons toujours être directs, littéraux et aborder directement un sujet dans notre titre. Et comme nous savions que la recherche la plus fréquente à l'époque concernait la femme iranienne qui avait été tuée, nous avons décidé que le titre du court-métrage devait également être Qui est Mahsa Amini? L'habillage final de nos autres plateformes s'est inspiré de cette première approche de YouTube. Nous savons aussi que les gens aiment avoir des visages sur l'écran. Donc, les gens se connectent avec les gens. Donc, nous avons commencé par présenter mon visage, mais il était recadré à côté d'images très, très convaincantes provenant d'Iran et qui circulaient déjà. Attirer l'attention des gens dès le début, dans les 3 premières secondes, c'est essentiel. Sinon, on les perd. Si vous avez des questions sur le clip que nous venons de regarder, veuillez les déposer dans la fenêtre des questions-réponses située à droite de la vidéo. Nous en parlerons à la fin de l'atelier. OK, alors, entrons dans le vif du sujet. Nous en sommes à l'atelier 4 de cette série de 6. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de la conception de votre marque et de tous les outils à votre disposition en tant que créateur. Nous avons également mis en ligne une bibliothèque de ressources et de conseils pour la marque sur la plateforme. Alors, allez-y pour la consulter. Vous pouvez également visionner le contenu des ateliers précédents à la demande et télécharger le matériel de présentation et d'autres ressources supplémentaires pour vous aider dans votre parcours. L'atelier d'aujourd'hui va aborder 2 sujets très importants, des sujets sur lesquels je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des questions. Comment YouTube recommande les vidéos et les bases de la monétisation. Alors, sans plus tarder, je suis très heureuse de vous présenter notre directeur des partenaires et le présentateur de l'atelier d'aujourd'hui, Ezra Brettler. Ezra travaille chez Google depuis plus de 11 ans. Il travaille dans les partenariats de contenu d'actualité chez YouTube depuis janvier 2019. Il fournit des conseils stratégiques aux diffuseurs nationaux aux États-Unis pour les aider à développer leur audience sur la plateforme. Ezra, à vous. Merci Kim et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour l'atelier d'aujourd'hui. Je m'appelle Ezra Brettler et je suis responsable des partenaires stratégiques chez YouTube et je suis chargée des diffuseurs nationaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste dire, Kim, que j'ai adoré la façon dont vous avez décrit l'approche de News Movement comme une narration horizontale. J'espère que cette description des amis qui racontent les nouvelles à leurs amis correspond à ce que beaucoup de participants à l'atelier cherchent à faire avec leur propre chaîne. Et vous avez fait un travail incroyable avec le short de Mahsa Amini. C'est facile de voir pourquoi elle a eu tant de succès dans le rayon des shorts. Quoi qu'il en soit, nous avons une tonne de contenu pour vous aujourd'hui. Alors, restez à l'écoute et n'oubliez pas de poser toutes vos questions dans la boîte de questions-réponses. Alors, on y va. On va passer la majeure partie du temps aujourd'hui à parcourir la première section intitulée « Comment YouTube recommande les vidéos Nous allons couvrir ce sujet en trois grandes sections. Nous allons commencer par les principes qui sous-tendent le système de recommandation de YouTube. Ensuite, nous parlerons du fonctionnement du système de recommandation. Et enfin, nous aborderons quelques bonnes pratiques qui vous aideront à comprendre vos spectateurs et leurs habitudes. Le système de recommandation de YouTube a deux grands buts. C'est orienter les spectateurs vers les vidéos qui leur plaisent le plus et les satisfaire pour qu'ils reviennent régulièrement sur YouTube. Donc, gardez ces deux principes fondamentaux à l'esprit et nous essaierons d'y faire référence tout au long de la présentation. Ces deux objectifs s'appuient sur ce que nous appelons nos quatre règles de base, qui décrivent notre approche de la responsabilité sur la plateforme. Les quatre règles sont au cœur de toutes nos décisions et de la conception de nos produits. Ces quatre règles sont supprimées. Nous supprimons le contenu qui enfreint nos directives communautaires, augmenter ou amplifier les voix qui font autorité sur la plateforme, réduire, nous réduisons la diffusion de contenus limites qui ne violent pas nécessairement nos directives communautaires mais qui frôlent notre ligne de conduite. Et enfin, la récompense. Nous récompensons les contenus qui répondent à nos critères élevés de monétisation. Lorsque nous parlons des systèmes de recommandation de YouTube, nous nous concentrons sur les éléments d'amplification et de suppression. Il est toutefois essentiel que vous examiniez et compreniez les directives communautaires de YouTube et que vous évitiez les sujets et contenus flagrants qui pourraient être considérés comme violents. Bien que des nuances puissent exister dans certains domaines, des éléments comme la pornographie, la maltraitance des enfants ou les contenus faisant la promotion d'actes violents ou dangereux ne sont jamais acceptés ou ni acceptables. Examinons de plus près les notions de suppression et de réduction. Pour les domaines sensibles comme l'actualité ou les informations médicales, nous augmentons la visibilité des voix qui font autorité. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons toute une série de caractéristiques du produit, notamment divers types de panneaux d'information textuelle et des rayons de contenu vidéo. Dans le capture d'écran de droite, vous voyez un exemple de panneau d'information sur la vérification des faits. Les vérifications des faits vous indiquent si les affirmations liées à votre recherche sont vraies, fausses ou dans une catégorie différente comme partiellement vraies, selon la vérification des faits d'un éditeur. Et puis nos rayons Breaking News et Top News, les dernières nouvelles, sont des exemples de la manière dont nous augmentons le contenu vidéo provenant de sources qui font autorité. Et puis, nous nous engageons à faire évoluer notre système de recommandation afin de réduire la diffusion de contenu à la limite de la violation ou de contenus qui peuvent être basés sur des informations erronées ou préjudiciables. Il s'agit d'un processus continu visant à faire de YouTube un lieu où les utilisateurs peuvent visualiser un contenu sûr et de haute qualité. Je vous suggère de consulter l'article du blog mis en évidence ici pour en savoir plus sur ce sujet après l'atelier d'aujourd'hui. Si nous passons maintenant aux détails du fonctionnement de notre système de recommandation, il a évolué au fil du temps. Au début, nos systèmes optimisaient les clics et les vues, mais cela ne tenait pas vraiment compte de ce qui se passait après qu'un spectateur ait cliqué sur une vignette. Nous avons également appris que les spectateurs trouvaient le clickbait, ou ce qu'on appelle communément le putaclic, rébarbatif, et c'est un point que nous avons choisi d'aborder. Et donc, en 2012, nous avons décidé d'axer davantage de recommandations sur le temps de visionnage, mais cela ne tenait toujours pas pleinement compte de la qualité. Nous voulions que les internautes soient satisfaits du temps qu'ils passaient sur YouTube. Nous avons donc commencé à demander aux spectateurs quelles vidéos ils aiment, et nous avons fait évoluer le système de recommandation pour améliorer la satisfaction des spectateurs à long terme. Dans cette optique, nos systèmes de recommandation ne considèrent pas tous les temps de visionnage comme égaux. Ce qui nous importe le plus, c'est le temps de visionnage que les téléspectateurs apprécient vraiment et dont ils sont satisfaits. Mesurer la satisfaction des spectateurs peut être un processus complexe car il n'existe pas de définition stricte ou cohérente de ce qu'est la satisfaction. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde et elle peut même varier selon les pays, les ethnies et d'autres variables. Nous mesurons la satisfaction de différentes manières, notamment par le biais d'enquêtes auprès des téléspectateurs. Nous utilisons ces données pour former des modèles de prédiction qui identifient les vidéos les plus satisfaisantes. Bien que ces résultats ne soient pas partagés avec les créateurs à l'heure actuelle, nous travaillons à intégrer davantage d'informations sur la satisfaction dans les analyses YouTube. Nous prenons également en compte d'autres signaux tels que les utilisateurs qui sélectionnent pas intéressés, ainsi que les goûts et les partages. Pour associer chaque spectateur aux vidéos qu'il a le plus été de regarder et d'apprécier, nous examinons un certain nombre de signaux du public. Ce qu'ils regardent, combien de temps ils le regardent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils partagent, etc. Vous avez peut-être entendu dire que l'audience pilote l'algorithme et l'utilisation de ces signaux garantit que c'est vrai. Les créateurs demandent parfois des points de repère comme quel taux, quel de clics dois-je viser? Eh bien, il n'y a pas vraiment de seuil spécifique qu'une vidéo doit atteindre pour être découverte. Le potentiel de découverte de votre vidéo est toujours relatif aux autres vidéos que votre public pourrait regarder. Les signaux que nous utilisons évoluent au fil du temps, mais l'objectif est toujours le même, trouver le contenu le plus attrayant et le plus satisfaisant pour le spectateur. Tout au long de cette présentation, nous vous entendrez souvent le mot recommander. Lorsque nous utilisons ce terme, nous faisons référence au système de recommandation de YouTube, qui est conçu pour trouver les meilleures vidéos à proposer aux spectateurs sur la page d'accueil et via les vidéos suggérées.
Les vidéos suggérées sont les recommandations affichées à côté ou en dessous de la vidéo qu'un utilisateur est en train de regarder, ou les vidéos qui sont diffusées automatiquement une fois la vidéo terminée. Les recommandations sont le moyen par lequel la plupart des téléspectateurs découvrent des vidéos et les regardent sur YouTube. Il y a des milliards de vidéos sur la plateforme et plus de 500 minutes de contenu sont téléchargées chaque minute. Et le travail de notre système est de les réduire au meilleur ensemble de candidats à proposer à chaque spectateur. La page d'accueil est ce que les internautes voient en première lorsqu'ils visitent YouTube. Ils montrent des vidéos provenant des abonnements, des utilisateurs, des vidéos regardées par des spectateurs ayant des intérêts similaires et d'autres. La sélection des vidéos est basée sur la performance, par exemple dans quelle mesure la vidéo a suscité l'intérêt et la satisfaction des spectateurs similitaires, ainsi que l'historique de visionnage du spectateur, c'est-à-dire la fréquence à laquelle il regarde les vidéos d'une chaîne ou d'un sujet spécifique. La page d'accueil est un endroit idéal pour que les utilisateurs découvrent de nouveaux contenus. Alors regardez vos vidéos du point de vue d'une personne qui n'est pas familiarisée avec votre chaîne et votre contenu. Choisirait-il de les regarder? Dans l'atelier d'il y a 2 semaines, Courtney abordait l'importance d'une bonne conception des vignettes et des titres. Ceux-ci sont un point d'interaction clé entre les spectateurs et votre contenu. Alors assurez-vous que vous investissez le temps et les efforts nécessaires pour affiner les vignettes et les titres utilisant l'expérimentation. En téléchargeant régulièrement, les spectateurs peuvent savoir quand s'attendre à des nouvelles vidéos de votre part. Ne vous préoccupez pas trop de la fréquence de vos téléchargements, mais concentrez-vous plutôt sur la cohérence, sur la manière dont vous pouvez amener les spectateurs à créer une routine ou une habitude autour de votre chaîne. Par exemple, vous pouvez mettre en ligne le premier mardi de chaque mois ou peut-être tous les jeudis. La fonction suggestion est conçue pour proposer des vidéos que les téléspectateurs sont les plus susceptibles de vouloir regarder ensuite. Parfois, ces vidéos sont liées à la vidéo qu'un spectateur est en train de regarder en ce moment, mais les vidéos peuvent aussi être personnalisées en fonction de l'historique de visionnage de l'utilisateur. La création d'une série est une des stratégies la plus efficace pour inciter les gens à regarder votre contenu. Il est également utile de développer un style cohérent pour les vignettes et les titres afin d'aider les spectateurs à repérer facilement vos vidéos parmi celles qui sont proposées. Vous pouvez essayer de terminer vos vidéos par un appel à l'action. Par exemple, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimeriez peut-être aussi cette autre vidéo que j'ai faite, qui s'appelle. Bien sûr, vous pouvez également utiliser des écrans de fin ou des listes de lecture que vous présentez sur la page de votre chaîne pour encourager les spectateurs à continuer à regarder. La page d'accueil et les suggestions sont 2 exemples de sources de trafic, mais l'examen de la liste complète de sources de trafic sur YouTube Analytics peut vous aider à comprendre votre public et la façon dont ils aiment découvrir vos vidéos sur YouTube. Vous remarquerez peut-être que certaines vidéos seront plus vues que d'autres à partir des sources de trafic spécifiques. Il est normal que les vidéos présentent différentes combinaisons de sources de trafic, car les gens aiment regarder et découvrir des vidéos de différentes manières. Par exemple, Beaucoup de gens recherchent des vidéos sur comment faire certaines choses. Entre-temps, les vidéos musicales sont souvent vues en grand nombre dans les listes de lecture, car c'est ainsi que les gens aiment écouter la musique sur YouTube. Et les vidéos d'actualité peuvent obtenir plus de trafic à partir du flux de la page d'accueil, car c'est là que de nombreux téléspectateurs consomment les dernières nouvelles. Cam, je voudrais savoir de toi, qu'est-ce que vous regardez dans les sources de trafic de News Movement? Voilà. Bon, ce qui concerne le contenu de Shorts, plus de 90% des spectateurs proviennent des flux de Shorts. En ce qui nous concerne, nos vidéos autres que les courts-métrages, nos deux principales sources de trafic sont YouTube Search et les sources externes. Une grande partie de l'audience de YouTube Search provient des recherches liées à notre série d'enquêtes qui a mis en lumière l'épouvantable situation de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas encore parlé de sources de trafic externes, mais il peut s'agir d'une source importante des spectateurs lorsque les créateurs exploitent d'autres plateformes sociales pour la promotion croisée. Dans notre cas, nous avons connu un certain succès en utilisant Twitter et Instagram pour promouvoir certaines de nos vidéos sur YouTube. Merci de partager cela, Kim. Comme tu l'as mentionné, la promotion croisée peut s'avérer très utile, notamment au cours des premières années de développement d'une nouvelle chaîne. Lorsque les créateurs pensent à l'algorithme, ils imaginent parfois que les vidéos sont poussées ou promues auprès des spectateurs. Au lieu de cela, le système de recommandation de YouTube trouve ou attire des vidéos pour les spectateurs quand ils visitent YouTube. Ces vidéos sont ensuite classées en fonction de leur performance et de leur pertinence pour le téléspectateur concerné. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le public est le moteur de l'innovation et de l'algorithme. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont une influence sur le nombre de personnes qui recommandent vos vidéos et la fréquence à laquelle elles sont diffusées sur YouTube. En d'autres termes, la quantité d'impressions des vignettes de vos vidéos. Notre système utilise divers signaux d'audience et des facteurs externes et ont également un impact sur la découverte des vidéos. Tout d'abord, les recommandations sont personnalisées pour chaque utilisateur en fonction de ses intérêts. Nos systèmes tirent des enseignements de l'historique de visionnage de chaque utilisateur pour comprendre les intérêts et savoir quelle vidéo, chaîne et quel sujet lui recommander. Mais nous voulons aussi que les spectateurs découvrent de nouveaux contenus qu'ils pourraient apprécier. Nos systèmes identifient donc les vidéos nouvelles à recommander en notant les vidéos qui sont souvent regardées ensemble. Par exemple, notre système peut constater que les spectateurs de la vidéo A regardent souvent aussi la vidéo B. Par conséquent, si un spectateur a regardé la vidéo A, nous allons lui recommander la vidéo B. Le temps que le spectateur passe avec vous et votre chaîne est également un indicateur fort de l'intérêt des téléspectateurs pour votre contenu. Chaque téléspectateur dispose en effet d'un classement de chaînes qu'il regarde le plus, qui évolue en fonction de ses centres d'intérêt. Et n'oublions pas ces derniers points. Les intérêts des gens changeront au fil du temps. Pensez à ce qui s'est passé il y a 10 ans et comparez l'environnement à ce moment-là avec ce qui se passe aujourd'hui. On jouait des jeux vidéo différents, on portait des habits différents, nous avons des nouvelles émissions de télévision préférées maintenant. Nos centres d'intérêt évoluent tout comme les vidéos YouTube que nous regardons. Notre système de recommandation est conçu pour suivre le public et les vidéos qui sont recommandées sont le reflet des intérêts en constante évolution de notre public. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et votre stratégie de contenu? Vous devez évoluer avec votre public au fil du temps. C'est pourquoi il est important de toujours continuer à expérimenter pour conserver les spectateurs que vous avez et en attirer de nouveaux. Si vous constatez une baisse constante de l'audience au fil du temps, il se peut que votre public soit passé à autre chose et qu'il soit temps d'essayer quelque chose de nouveau. Google Trends est un outil puissant qui permet de voir comment l'intérêt pour différents sujets évolue dans le temps. Vous pouvez filtrer uniquement sur YouTube Search et vous pouvez également filtrer par pays. Outre la personnalisation, nos systèmes examinent également les performances d'une vidéo lorsqu'elle est recommandée aux spectateurs. Par exemple, lorsqu'une vidéo est recommandée à un spectateur, choisit-il de la regarder ou de l'ignorer? Ou clique-t-il sur pas intéressé? Ensuite, nous regardons si le spectateur reste ou non sur place. Nos systèmes utilisent à la fois la durée moyenne de visionnage et le pourcentage moyen de visionnage comme signaux pour le classement. Enfin, nous examinons si les spectateurs ont apprécié ou non la vidéo en utilisant les signaux tels que le j'aime ou j'aime pas, ainsi que les résultats des enquêtes après le visionnage. Les shorts, les courts-métrages, l'expérience vidéo verticale de forme courte de YouTube sont un domaine en pleine expansion sur la plateforme, puisque le nombre de visionnages de courts-métrages a atteint plus de 3 milliards par jour et les shorts sont regardés par 1,5 milliard d'utilisateurs connectés chaque mois. Comme Kim l'a illustré, les courts-métrages peuvent aussi être un levier particulièrement utile pour des chaînes relativement nouvelles, comme The News Moment, pour développer leur audience. Regardons maintenant comment le système de recommandation de YouTube s'applique aux shorts. À un autre niveau, les principes de YouTube pour les vidéos courtes, les shorts ou les vidéos longues sont les mêmes. L'objectif principal étant de faire correspondre chaque spectateur aux vidéos qu'il est le plus susceptible de regarder et d'apprécier. Donc, la plupart de ce dont nous avons parlé s'applique également aux shorts. Une différence notable concerne les vignettes vidéo, car les vignettes sont un levier essentiel pour améliorer le CTR des vidéos de longue durée, mais la majorité des vues de vos shorts proviendront du flux de shorts, et les vignettes n'apparaissent pas une fois qu'un spectateur plonge dans l'expérience du flux de court-métrage. Dans l'ensemble, l'algorithme du fil de shorts utilise des milliards de signaux lorsqu'il fait apparaître du contenu, mais il y a quelques éléments qui méritent d'être étudiés de près. Les commentaires, le commentaire et l'appréciation méritent d'être surveillés de près, car ces boutons sont bien visibles dans le flux de shorts. Le nombre de spectateurs qui s'engagent avec votre contenu peut vous montrer ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Lorsque les gens réagissent bien à un short, prenez note de ce qui, selon vous, les a incités à interagir et appliquez-le dans votre prochain short. Ensuite, la fidélisation du public, qui nous permet de savoir si vous gardez les spectateurs jusqu'à la fin ou pas. Nous vous recommandons de vous concentrer sur la mesure du pourcentage moyen de visionnage, étant donné que les shorts ne peuvent pas durer plus d'une minute. Lorsque l'on regarde le graphique de rétention d'audience d'un short, il est assez courant de voir une rétention d'audience supérieure à 100% pour la partie la plus gauche du graphique, car les vidéos du flux de short tournent en boucle jusqu'à ce que le spectateur choisisse de passer au court-métrage suivant. Sur le côté droit de la diapositive, nous avons le graphique de rétention d'audience pour un short qui a été créé par The News Movement. Et vous pouvez voir que la rétention de l'audience est beaucoup plus supérieure à 100% pendant les 8 premières secondes. Je vais passer la parole à Kim maintenant, afin qu'elle vous parle un peu de ce short. Merci, Ezra. Oui, la prochaine vidéo que je vais vous montrer a un tableau de rétention d'audience impressionnant, comme vous l'avez expliqué. Elle s'intitule Fusillade dans une école du Texas. Le chef de la police a été renvoyé. Et nous l'avons abordé un peu différemment de la première vidéo sur Masha Amini que je partageais avec vous. Allez, accrochez-vous. Regardons-la. Rendre votre insigne et démissionner. Vous n'avez pas le droit d'emporter. Voilà les gens qui ont survécu à la fusillade à l'école de Uvalde. Ils ont demandé la démission du chef de la police par la façon à laquelle il a géré la situation. Il y avait 400 policiers qui étaient en train d'attendre plus de 70 minutes dehors de l'école avant de rentrer. Le chef de la police, Pete Arredondo, était responsable de dire à la police comment agir. 19 enfants et deux maîtresses ont été tués pendant cette fusillade. Arredondo a présenté une lettre de 4 500 mots où il avait déjà annoncé qu'il y avait beaucoup de violence dans ces districts, mais grâce à la pression des familles et de la communauté, il a dû démissionner. Donc, comme vous l'avez vu, les premières 3 secondes ne sont pas nous. Nous avons choisi de montrer une jeune fille qui a survécu à la fusillade et qui donne un message à l'ancien chef de la police du district, Pete Arredondo. L'effet émotionnel a été immédiat, dans la mesure du possible. Lorsque nous avons le matériel, nous voulons passer le micro plutôt que de laisser le présentateur raconter l'histoire. Et lorsque les images sont convaincantes, le public a envie de connaître toute l'histoire. Il regarde la vidéo complète. Cela a permis à Omar, mon collègue journaliste et producteur dans cette vidéo, d'intervenir pour donner le contexte de ce qui s'est passé. Il a très efficacement donné des informations sur ce qui s'est passé lors de la fusillade à l'école de Uvalde, sur les raisons pour lesquelles les gens demandaient le renvoi de ce chef de police. Il a créé un ensemble plus complet, mais qui a commencé par le témoignage de la jeune fille. La vidéo des Masha Amini a connu une croissance régulière dès le début, avec des vues qui ont doublé, puis triplé, et ainsi de suite. L'engagement a été correct au cours des premiers 10 jours, mais il y a eu un moment de courbe en crosse de hockey lorsque le directeur du département de la sécurité publique du Texas a admis la culpabilité de son département dans la fusillade. Et ce moment a relancé la conversation autour de la fusillade. À ce jour, il s'agit de notre vidéo la plus visionnée, avec 5,9 millions de vues. Nous pensons également que cette vidéo a bien marché parce que notre public cible, la génération Z, se soucie de la justice et veut que justice soit faite pour la question qui lui tient à cœur. En ce qui concerne la violence armée, nous voyons cette jeune fille demander la démission du chef de police et demander que quelque chose soit fait. Ce n'est pas seulement une autre histoire sur une autre fusillade dans une école, il s'agit des personnes impliquées. Nous n'avons pas ouvert avec des images de la fusillade, nous avons ouvert avec la fille. Ce n'est pas à propos de ce qui s'est passé ce jour-là, c'est à propos du chef de la police et de qui était responsable. Il s'agit donc d'un autre exemple de la manière dont nous puissions, dans les préoccupations de notre public et dont elles influencent les histoires que nous racontons et la manière dont nous les racontons. Nos téléspectateurs sont des personnes et ils se connectent avec d'autres personnes. Et le fait de donner la priorité aux gens, encore une fois, influence énormément la façon dont nous faisons ce travail. Merci beaucoup d'avoir partagé cet exemple, Kim. Les premières secondes de ce court-métrage sont très puissantes. On comprend pourquoi tant de gens ont choisi de rester et de regarder la vidéo complète, puis de revoir le début. J'apprécie ça, Ezra. Avant de conclure cette section, Ezra et moi allons passer en revue les questions les plus fréquemment posées lors d'une analyse des performances de vidéos et de vos chaînes. La première question est une question qui m'intéresse personnellement. Parfois, l'équipe
Il arrive que notre équipe consacre beaucoup de travail à une vidéo, que les taux de clics et la durée moyenne de visionnage soient corrects, mais que le nombre de visionnages soit inférieur aux prévisions. Que se passe-t-il dans ce cas? C'est une excellente question, Kim. En fait, si les créateurs peuvent comparer les vidéos de leur chaîne à d'autres, les systèmes de YouTube classent chaque vidéo par rapport à toutes les autres vidéos qu'un utilisateur peut regarder. Donc, même si une vidéo a un taux de clic et une durée de visionnage moyenne solide par rapport aux autres vidéos de votre chaîne, il se peut que les vidéos d'autres chaînes soient encore plus performantes. N'oubliez pas non plus que la page d'accueil et les vidéos suggérées ont chacun leur propre modèle de classement. Ça signifie que le classement de la page d'accueil est principalement basé sur les performances d'une vidéo dans le contexte où elle est présentée, c'est-à-dire que les spectateurs choisissent de cliquer, de regarder et d'apprécier la vidéo lorsqu'elle leur est proposée sur la page d'accueil. D'accord, c'est utile. La question suivante, c'est une autre question qui a fait l'objet de discussions au sein de notre propre équipe, car nous avons parfois envisagé de modifier la vignette d'une vidéo plusieurs jours après sa mise en ligne. La modification du titre ou de la vignette d'une vidéo permet-elle de repositionner, reclasser la vidéo dans l'algorithme? C'est une question que j'ai souvent entendue de la part de créateurs de contenu avec lesquels je travaille. La réponse rapide, c'est peut-être. Mais c'est parce que nos systèmes répondent à la façon dont les spectateurs interagissent avec votre vidéo différemment plutôt que l'impact direct de l'acte de changer le titre ou la vignette. Je m'explique. Le reclassement, ce n'est pas explicitement déclenché lorsque vous changez le titre ou la vignette de votre vidéo. Au contraire, nos systèmes tirent constamment des enseignements du comportement des spectateurs. Si un plus grand nombre de personnes choisissent de regarder votre vidéo après un changement de vignette, elle peut être montrée à un plus grand nombre de personnes, ce qui augmente les impressions de votre vidéo. Et l'inverse est également vrai. Si moins de personnes choisissent de regarder votre vidéo après un changement de vignette, les impressions de votre vidéo peuvent diminuer. Ah, je vois. Donc, c'est plus un impact indirect, hein? Passons à la question suivante. La monétisation affecte-t-elle la découverte de vidéos? Nos systèmes de recherche et de recommandation ne savent pas quelles vidéos sont monétisées et lesquelles ne le sont pas. Nous avons une vision à long terme et nous nous attachons à recommander les vidéos que les spectateurs trouveront satisfaisantes, qu'elles soient monétisées ou non. Vous pouvez voir ceci en action en désactivant la monétisation d'une vidéo et en remarquant qu'il n'y a aucun impact sur le trafic de recherche ou de recommandation pour cette vidéo. Ceci étant dit, voici ce qui peut arriver si votre vidéo contient beaucoup de violence, beaucoup de contenu violent, de contenu sexuel ou de profanité. Il y a beaucoup plus de chances qu'une vidéo comme celle-ci reçoive une icône jaune parce qu'elle n'est pas appropriée pour tous les annonceurs. Il y a également plus de chances qu'elle ne soit pas recommandée à autant de téléspectateurs parce qu'elle n'est pas appropriée pour tous les spectateurs. Dans cet exemple, ce n'est pas l'icône jaune qui fait que la vidéo est moins recommandée, mais c'est son contenu violent, sexuel et grossier ou vulgaire. Je ne sais que pour les créateurs indépendants, l'épuisement peut parfois être un problème. Si un créateur fait une pause dans ses téléchargements, est-ce que ça va nuire aux performances de sa chaîne? Certains créateurs ont peur de faire une pause car ils ont peur que l'algorithme oublie leur chaîne. Notre équipe a étudié des milliers de pauses et a constaté qu'il n'y a pas de corrélation entre la durée entre les téléchargements et l'évolution des vues. De nombreuses chaînes ont même connu une croissance positive de leur audience après avoir fait une pause. Gardez à l'esprit que si vous faites une pause, il faudra peut-être un certain temps pour réchauffer votre public à mesure qu'il reprend ses habitudes de consommation. Pensez à vos émissions de télé préférées. Lorsqu'une nouvelle saison sort, vous commencez parfois à la regarder immédiatement, et puis d'autres fois, vous attendez quelques semaines avant de la reprendre. D'accord. J'espère que c'est rassurant pour tous ceux qui sont stressés par ce qui pourrait arriver s'ils devaient faire une pause. J'en viens à la cinquième et dernière question. Chaque fois qu'une vidéo n'est pas aussi performante que prévue, ça peut être décourageant et ça peut aussi susciter de l'anxiété quant à ce que ça pourrait signifier pour les futurs téléchargements. Si une de mes vidéos sous-performe, est-ce que ça va nuire à ma chaîne? De nombreux créateurs craignent que si une vidéo ne fonctionne pas bien, cela va nuire aux performances des prochaines vidéos qu'ils mettent en ligne. C'est peu probable. Là encore, nos systèmes sont conçus pour associer chaque spectateur aux vidéos qu'il est le plus susceptible de regarder et d'apprécier. Nous nous appuyons beaucoup plus sur les signaux de la vidéo et de l'audience pour déterminer quelles vidéos constituent les meilleures recommandations pour les spectateurs. Ce qui pourrait entraîner une baisse du nombre total de vues de la chaîne, c'est que les spectateurs cessent de regarder la plupart de vos vidéos lorsqu'elles sont recommandées ou qu'ils commencent à regarder davantage d'autres chaînes sur YouTube. Voilà qui conclut cette section des questions fréquemment posées. Nous avons une poignée de quelques diapos supplémentaires avant de passer au thème de la monétisation. Vous vous demandez peut-être comment nous prendre toutes ces infos et les traduire pour comprendre vos spectateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le public, c'est que c'est le public qui dirige l'algorithme. Concentrez-vous sur vos spectateurs, sur le contenu qu'ils aiment, sur l'évolution de leurs intérêts au fil du temps et les vues viendront. S'il est important de comprendre le fonctionnement du système de recommandation de YouTube, il convient de noter que notre système de recommandation n'est pas le seul élément qui influence le nombre d'impressions de vos vidéos. Examinons trois facteurs externes qui déterminent également le nombre de personnes qui voient vos vidéos. L'intérêt pour le sujet, la concurrence et la saisonnalité. L'intérêt pour le sujet, c'est le nombre de personnes dans le monde qui s'intéressent à un sujet donné et qui regardent des vidéos sur ce sujet. À titre d'exemple, jetez un coup d'œil à ces estimations de l'audience potentielle pour les différents sports. Souvent, les vidéos sur le foot ou le soccer, comme on l'appelle aux États-Unis, elles sont plus vues que les vidéos de golf. Ce n'est pas parce que notre algorithme a une préférence pour les vidéos de foot, mais parce qu'il y a plus de personnes sur YouTube qui regardent des vidéos sur ce sujet pour les recommander, à qui nous pouvons les recommander. Donc, lorsque vous réfléchissez à votre stratégie de contenu et au sujet que vous souhaitez couvrir en tant que créateur d'infos, essayez de vous faire une idée de l'ampleur du public potentiel pour le domaine d'intérêt que vous avez choisi. Certains sujets ont un attrait plus large que d'autres et cet attrait évolue également avec le temps. Il faut également garder à l'esprit que si les créateurs comparent les performances des vidéos sur la chaîne, les systèmes de YouTube classent les vidéos de toutes les chaînes qu'un spectateur peut regarder. Un spectateur type regarde des centaines de chaînes, de sorte qu'il y a beaucoup de concurrence pour attirer son attention. Donc, même si vous avez de bonnes mesures, de bonnes données pour votre vidéo, vous risquez de recevoir moins d'impressions si les vidéos couvrant le même sujet sur d'autres chaînes sont encore plus performantes. En fait, il est courant que moins de 10% du public d'une chaîne la regarde le plus. En d'autres termes, il regarde cette chaîne plus que toute autre sur YouTube, plus que toute autre chaîne sur YouTube. Le nombre de spectateurs en ligne qui regardent YouTube a également un impact sur le nombre d'impressions que reçoit une vidéo. Après tout, le trafic sur YouTube peut changer selon les périodes de l'année. Par exemple, De nombreux créateurs américains connaissent des baisses d'audience dans la mi-août lorsque de nombreux spectateurs retournent à l'école. Plus récemment, nous avons observé des hauts et des bas dans le trafic lié à la COVID qui a radicalement changé les habitudes de consommation. Alors, pensez à votre public, qui il est, dans quel pays il se trouve, quand il va à l'école, et ce qui se passe dans sa vie, et attendez-vous à des fluctuations d'audience pendant les vacances surtout. En tant que créateur d'actualité, une variable supplémentaire pourrait être le cycle d'actualité. Par exemple, si vous êtes un créateur d'infos axées sur les élections, vous constaterez probablement une forte audience autour des élections, des grandes élections, comme les élections de la mi-mandat, la semaine dernière aux États-Unis, puis une baisse d'audience après la fin des élections. Donc, en résumé, bien qu'il s'agisse de deux indicateurs très importants, le taux de clic et la durée moyenne d'affichage ne peuvent pas tout expliquer. En d'autres termes, le nombre de personnes recommandées pour une vidéo donnée ne dépend pas uniquement du nombre de personnes qui ont choisi de la regarder, ni de la durée de leur visionnage. Les impressions sont également basées sur le degré d'attrait du sujet de la vidéo, sur les performances des autres vidéos et sur la qualité de la vidéo et co de combien de personnes sont en ligne et regardent YouTube. Donc, pour récapituler, nos systèmes sont axés sur la satisfaction à long terme des spectateurs et sur la mise en relation des spectateurs avec les vidéos qu'ils sont le plus susceptibles de regarder et d'apprécier. Aussi, l'algorithme suit l'audience. Et continuez toujours à expérimenter car les intérêts de votre public évolueront au fil du temps. Enfin, attendez-vous à des fluctuations à court terme et à la saisonnalité. Lorsque vous analysez votre chaîne, nous vous recommandons toujours de faire un zoom arrière sur des périodes plus longues, comme 6, 6 mois ou 12, pour mieux comprendre vos analyses. OK, voilà qui conclut notre premier sujet. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de questions-réponses et nous y reviendrons sous peu. Passons maintenant à notre deuxième sujet du jour, les bases de la monétisation. Cette section sera un peu plus courte que la précédente. Pour commencer, je vous expliquerai brièvement certains termes liés à la monétisation que vous entendrez. Tout d'abord, l'estimation des revenus des partenaires donne une approximation du total des revenus publicitaires et non publicitaires après application de la part de revenus de YouTube. Ensuite, il y a les vues. Les vues sont un indicateur important dans l'engagement du public, bien sûr, mais elles sont aussi un facteur du nombre d'impressions publicitaires que YouTube montre aux spectateurs. Ensuite, il y a l'estimation des lectures monétisées ou le MP. Ça vous indique combien de vues ont eu au moins une publicité présentée. CPM, ça signifie le coût par 1 000, c'est le revenu brut estimé pour 1 000 impressions publicitaires présentées. Et enfin, le revenu par 1 000 ou RPM indique combien d'argent vous avez gagné pour 1 000 vues. Le graphique à l'écran montre les différentes sources de revenus sur YouTube auxquelles vous avez accès en tant que créateur. Comme nous abordons les principes de base de la monétisation, nous nous concentrerons sur les revenus générés par les publicités à gauche, y compris leur fonctionnement et la manière dont vous pouvez les optimiser. Mais vous pourrez ensuite choisir d'explorer les possibilités de revenus non publicitaires. Pour commencer à monétiser votre contenu sur YouTube, votre chaîne doit adhérer au programme de partenariat YouTube, ou YPP en abrégé. Pour rejoindre l'IPP, votre chaîne doit répondre à ces conditions minimales d'éligibilité. Vous devez respecter toutes les politiques de monétisation de YouTube. Vous devez vivre dans un pays ou une région où l'IPP est disponible. Vous ne devez pas avoir enfreint aux directives communautaires sur notre chaîne, avoir au moins 1 000 abonnés et avoir 4 000 heures de visualisation publique au cours des 12 derniers mois, soit 10 millions de vues publiques de Shorts au cours des 90 derniers jours. Ceci étant dit, examinons de plus près la manière dont les recettes publicitaires sont générées. Tout d'abord, un spectateur clique sur une vignette, ce qui génère un affichage et donne au système publicitaire la possibilité de diffuser une pub. Le taux de remplissage représente le pourcentage de visionnage où une publicité est affichée avant, pendant ou après la vidéo. Ce taux fluctue en fonction de facteurs tels que l'inventaire publicitaire total et l'intérêt des annonceurs pour la chaîne, le sujet et le public. pour le voir dans les analyses YouTube, divisez le nombre de vues par le nombre de lectures monétisées estimées. Le CPM, comme nous l'avons noté précédemment, est le revenu brut estimé pour 1 000 impressions publicitaires servies ou présentées. Enfin, le partage des revenus de YouTube est pris en compte. Si vous multipliez tout ce qui figure sur cette diapo, vous obtenez le revenu que le créateur conserve, ce qui est indiqué comme revenu publicitaire estimé du partenaire dans les analyses de YouTube. L'écosystème YouTube est composé de créateurs, d'utilisateurs et d'annonceurs. Pour assurer le succès de notre plateforme, nous devons équilibrer les besoins de ces trois catégories. Donc, par conséquent, vous pouvez constater des changements dans l'écosystème qui ont un impact direct sur votre activité en tant que créateur. Voici quelques exemples. Par le passé, nous avons abaissé les seuils de mid-roll pour les créateurs, ce qui nous a permis de placer davantage de pubs sur votre contenu. Nous avons également investi dans de nouveaux formats publicitaires, tels que des pubs qu'on peut sauter, qui ont profité aux créateurs, aux annonceurs et aux utilisateurs. YouTube vend, diffuse et cible des publicités pour aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs. Mais ce sont les créateurs qui nous indiquent les formats publicitaires qu'ils souhaitent voir diffusés sur leurs vidéos.
Les formats publicitaires varient en fonction des objectifs de l'annonceur et par conséquent, ils ont des CPM et des taux de remplissage différents. Pour optimiser votre taux de remplissage, votre CPM et en fin de compte vos revenus, nous vous recommandons d'activer toutes les options suivantes, tous les formats publicitaires disponibles pour vos vidéos. Dans YouTube Studio, vous pouvez voir comment le revenu global se répartit par type de publicité pour votre chaîne. À titre identificatif, les publicités que vous pouvez sauter et que vous pouvez pas sauter ont tendance à générer la plus grande partie des revenus pour les créateurs, suivis par les publicitaires de type bumper. Comme le nom l'indique, les publicités que vous pouvez sauter offrent aux spectateurs la possibilité de passer la publicité après 5 secondes, tandis que les bumpers sont des unités publicitaires que vous pouvez pas sauter et qui dure 6 secondes. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre les cases enchères et réservées dans le graphique à l'écran. Les termes réserve et enchère font référence à la manière dont chaque format d'annonce est vendu. Les annonces de réserve sont vendues par un vendeur Google, généralement à un CPM plus élevé que les annonces aux enchères. Les annonces aux enchères sont vendues par le biais d'une enchère en libre-service où les annonceurs enchérissent directement les uns contre les autres, par exemple pour une certaine catégorie démographique. Lorsque vous pensez aux publicités sur YouTube, la première chose qui vous vient à l'esprit est probablement les publicités qui apparaissent avant le début d'une vidéo. Ce sont les publicités pre-roll. En plus de pre-roll, le mid-roll, c'est-à-dire la publicité qui apparaît au milieu d'une vidéo, sont d'excellents moyens de monétiser un contenu plus long et d'augmenter les chances qu'une ou plusieurs publicités soient diffusées sur une vidéo. Voici quelques lignes directrices pour tirer parti des mid-rolls. Les vidéos doivent durer 8 minutes ou plus pour être éligibles aux publicités mid-roll. Vous pouvez choisir de placer les mid-rolls manuellement ou de demander à YouTube de les placer automatiquement pour vous. Pour les mid-rolls placés automatiquement, YouTube vise à équilibrer l'expérience des spectateurs et le potentiel de revenus des créateurs. La technologie d'apprentissage automatique de YouTube examine un grand nombre de vidéos et apprend à détecter les meilleurs endroits pour les mid-rolls. Le système évalue des facteurs tels que la pose visuelle ou sonore naturelle. Je tiens à souligner que même après avoir activé le mid-roll automatique, vous pouvez toujours ajuster manuellement les emplacements de publicité comme bon vous semble. Pour toutes les publicités, y compris les mid-rolls, nous cherchons à équilibrer les besoins des utilisateurs et les revenus des créateurs. Ainsi, même si vous avez placé un emplacement mid-roll, il se peut que nous ne diffusions pas une publicité sur cet emplacement à chaque visionnage afin de ne pas trop affecter l'expérience et le temps de visionnage des utilisateurs. Et cela ne s'applique pas seulement aux mid-rolls. Nos algorithmes cherchent en permanence à trouver cet équilibre. Nous choisissons le moment où il convient de diffuser ou non une publicité, ainsi que le type de publicité à diffuser. Par exemple, les annonces que vous pouvez sauter ou les annonces bumper de 6 secondes sont moins interruptives que les annonces que vous ne pouvez pas sauter qui durent 15 secondes. Et avant de conclure sur la monétisation basée sur la publicité, nous devrions aborder aussi la sécurité de la marque. Sur YouTube, nous disposons d'un ensemble de directives relatives au contenu adapté aux annonceurs qui déterminent si le contenu peut faire l'objet d'une monétisation complète, auquel cas une vidéo recevra une icône verte, ou d'une monétisation limitée avec une icône jaune correspondant. Si votre contenu est affecté par la directive relative au contenu adapté aux annonceurs, vous pouvez prendre quelques mesures. L'une des options consiste à télécharger initialement votre vidéo comme étant non répertoriée. Cela permet à nos systèmes d'effectuer des vérifications et vous permet de voir à l'avance le statut de monétisation avant que votre vidéo ne soit mise en ligne pour le public. Les vérifications de notre système prennent généralement moins de 20 minutes et pas plus d'une heure. Si une vérification est toujours en cours, vous verrez une icône vérification dans YouTube Studio. Si le statut de monétisation est vert, allez-y et publiez. Si le statut de monétisation est jaune, vous pouvez faire appel ou modifier la vidéo avant de la publier. Une fois qu'une vidéo est déjà publiée, si vous recevez une icône jaune, vous pouvez également faire appel de la décision si vous estimez que la vidéo a été marquée par erreur et qu'elle convient en fait à la plupart des utilisateurs. Gardez à l'esprit que les vidéos qui ne répondent pas à nos directives favorables aux annonceurs peuvent rester en ligne sur YouTube. Elles ne généreront simplement pas autant de revenus publicitaires qu'une vidéo entièrement monétisée. Cela nous amène à la fin du matériel de l'atelier d'aujourd'hui. Nous allons commencer par les questions-réponses dans quelques minutes. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez soumettre vos questions sur le côté droit de la vidéo. Nous avons également un défi pour vous cette semaine. Allez en avant et mettez en place un titre et un style de vignette cohérent pour votre chaîne. Examinez régulièrement les analyses et voyez comment cela affecte le taux de clics sur vos prochaines vidéos. Maintenant, je vais passer à nouveau la parole à Kim pour les questions et les réponses. Merci, Esra. Il est maintenant temps de répondre à certaines des questions que vous avez posées dans le chat. Essayons d'aborder le plus possible. La première question. Voilà, chez The News Movement. Comment vous travaillez avec les personnes? En ce moment, nous avons une personne principale pour transmettre les nouvelles, mais on voudrait bien avoir une équipe. Je pense que c'est une question difficile à répondre parce qu'on doit regarder déjà qui est intéressé par être devant la caméra. Mais je veux l'encourager parce que sur TikTok, sur YouTube, on voit, comme je dis tout le temps, que les gens se connectent avec des gens. Donc, on veut établir cette connexion. On veut que ce soit des copains qui racontent les nouvelles aux copains. On veut jamais forcer quelqu'un de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Mais je crois que cela est un point clé pour les jeunes qui regardent les nouvelles aujourd'hui. Et quand on parle du téléchargement, la cohérence est importante. Quand il s'agit des personnes qu'on voit devant l'écran ou sur l'écran, c'est cohérent aussi. C'est bien d'avoir deux ou trois personnes qui ensemble sont le visage de la chaîne, mais je pense que c'est important aussi d'utiliser les mêmes personnes au fil du temps au lieu d'avoir tout le temps des présentateurs différents parce qu'on veut que l'audience puisse établir une relation avec les présentateurs. Et surtout sur YouTube où la communauté est tellement importante, les personnes tombent amoureuses avec leur hôte et ils veulent entendre parler plus d'eux. Donc c'est une conversation très intéressante. Voilà, une question sur l'atelier, dernier atelier. Est-ce que c'est possible de réserver deux pseudonymes sur YouTube? Je peux le faire avec mon nom, mais je voudrais bien réserver mon pseudonyme de ma compagnie aussi. On vient tout juste d'annoncer d'implémenter les pseudonymes. C'est une dénomination un peu différente de votre chaîne. Et vous allez voir qu'il y a le symbole de arrobase devant. Donc, pour moi, c'est arrobase YouTube Creators. Donc, si vous allez sur youtube.com et vous rajoutez le arrobase YouTube Creators, vous tombez là-dessus. Pour répondre directement à la question, vous pouvez avoir qu'un seul pseudonyme. Donc, je vous encourage. Et pour répondre à la question, choisissez un pseudonyme spécifique, celui qui résonne le plus avec vous. Il y a la possibilité, évidemment, dans quelques mois, si vous voulez changer votre pseudonyme, vous allez pouvoir le faire. Et étant donné que ce pseudonyme n'est pas utilisé par une autre chaîne, mais on vous recommande d'utiliser qu'un seul pseudonyme, Et vous allez voir avec un peu plus de contexte que les pseudonymes seront utilisés sur la page de la chaîne. On les utilisera, vous les allez les utiliser dans les commentaires et dans le short aussi. Donc, je sais que c'est un sujet dont tout le monde parle, mais à propos de la question, vous avez le droit de choisir qu'un seul pseudonyme. Très bien de le savoir. Prochaine question. Est-ce qu'on peut utiliser, et si on rajoute des hashtags qui peuvent nous aider à que les gens trouvent notre vidéo? C'est une très bonne question. Je pense que rajouter des hashtags peut aider un petit peu pour que la vidéo soit découverte. Vous voulez pas, vous voulez juste rajouter des hashtags qui sont importants pour les vidéos. Et si vous utilisez des hashtags, vous faites des promesses. Donc faites attention avec tout ce que vous rajoutez. Sur YouTube Studio, vous pouvez voir aussi que vous voyez que la catégorie des hashtags est une catégorie séparée. Donc, vous pouvez voir le trafic qui vient de ça. Donc, tout ce qui est bleu au YouTube Studio dans les analytiques, vous pouvez cliquer dessus et vous voulez voir aussi combien de spectateurs ont regardé votre vidéo grâce au hashtag que vous avez utilisé. Donc, voilà. Vous, sur The News Movement, vous avez vraiment pu gérer ou générer beaucoup de temps de visionnage à propos des hashtags. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, nous avons fait un short après la mort de la reine Elisabeth et nous avons utilisé le hashtag Princesse Diana. Comme c'était juste qu'était lié des côtés, on a vraiment pu générer beaucoup de hashtags et beaucoup de temps de visionnage. Donc, c'était très utile pour que d'autres gens découvrent notre chaîne. Et la dernière question, si je rajoute une description avec des mots-clés, est-ce que la vidéo a plus de chances d'être recommandant ou c'est que le titre qui est important? C'est une question très habituelle qu'on entend souvent. Je dirais que le titre est beaucoup plus important que la description. La combinaison du titre et vignette, nous avons déjà parlé de ça il y a quelques semaines, c'est très important parce que cela aura un impact de comment les spectateurs sont attirés à une certaine vidéo et le taux de cliquer et aussi d'attirer les gens. Les titres seront très importants aussi. Surtout pour la recherche. Vous avez peut-être vous êtes rendu compte quand vous utilisez la recherche et les vidéos avec un titre similaire à ce que vous êtes en train de chercher apparaissent avant. La description peut aider aussi un peu avec la recherche, mais ce serait plus utile si vous voulez rajouter un peu plus de contexte pour une vidéo spécifique. Et on voit aussi des gens qui utilisent les descriptions pour établir les liens avec d'autres réseaux sociaux, pour établir une connexion avec quelque chose d'autre qui a déjà été écrit. Et je ne passerai pas trop de temps sur la description. Les titres auront beaucoup plus d'impact pour vous. Je veux juste rajouter que la clarté est très importante. Et il faut être direct, il faut être littéral, il ne faut pas essayer d'utiliser trop de symboles quand on crée les titres. Je crois que les gens vont et cherchent les réponses et ils veulent avoir de la clarté. Bon, voilà, et c'est fini. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir tout répondre. Ça, on espère vous avoir dans l'atelier dans 2 semaines. Et nous allons répondre encore plus de questions dans le bulletin et dans le salon verte. C'était un plaisir absolu de passer du temps avec vous. Et nous nous concentrons sur le YouTube Studio dans le prochain atelier. Alors, marquez votre calendrier pour le mercredi 30 novembre. Et en dernière chose, veuillez participer à notre enquête pour nous dire comment vous avez apprécié cette séance. Cela devrait vous prendre environ 2 minutes. Vous pouvez le trouver dans le panneau d'engagement à droite ou sur la page d'enquête dans le menu de navigation à gauche. Merci encore de vous joindre à nous aujourd'hui. Restez en contact et en espérant vous voir dans 2 semaines pour notre prochaine séance.